Et on va tout de suite rejoindre donc Mme Jeannie Houle, qui est chercheure, psychologue communautaire et professeure à l'UQAM. Bonjour Mme Houle.
Bonjour.
Alors, c'est comme je le précisais tout à l'heure, donc c'était un sondage somme qui avait été, je crois, ça avait été demandé, hein, c'est ça, par le regroupement provincial Santé et bien-être des hommes?
Oui, exactement. Donc, c'est le regroupement qui avait demandé ça, puis on a été un petit comité là, composé de chercheurs à développer les questions pour ce sondage.
D'accord. Et ça s'est déroulé là, l'automne dernier, et c'était quand même auprès de plusieurs hommes. Là. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'échantillon?
Oui, bien sûr. On a donc un échantillon représentatif composé de 2095 hommes. Okay. Donc, les données ont été pondérées. Là, puis, donc, c'est des données quand même assez solides.
C'est ça. Puis, si j'ai bien compris, ça se détaillait là, comme en trois parties ou en tout cas trois chapitres là, qui étaient faits sondage. Là.
Oui, c'est ça. Donc, on voulait s'intéresser aux facteurs qui facilitent la consultation, des ressources psychosociales plus particulièrement. Ensuite, quelles sont les préférences des hommes en matière d'intervention? Puis ensuite, on avait des questions un peu sur l'état de santé des hommes puis de leur consultation au cours de la dernière année.
D'accord. Et il y avait une petite partie, je crois, qui concernait les anglophones parce que vous aviez eu une demande plus particulière là, à ce niveau-là. Là.
Absolument. Donc, on a suréchantillonné pour avoir 250 répondants dont la langue maternelle était l'anglais pour connaître un peu leurs besoins.
D'accord. Et qu'est-ce qui est ressorti? C'est quoi les faits saillants, si on veut, là, de ce sondage là, que vous avez réalisé avec votre équipe? Là?
Bien, tout d'abord, on a constaté, dans le fond, qu'il y avait près d'un homme sur quatre qui semblait vivre de la détresse psychologique, c'est quand même considérable, et que seulement 12 % d'entre eux avaient consulté un intervenant psychosocial au cours des 12 derniers mois. Donc ça nous a beaucoup préoccupés, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on sait, hein, que il y a quand même beaucoup de détresse et que les hommes hésitent à consulter. Donc ensuite, on est allé regarder qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes consulteraient.
Oui, c'est
ça. Qui est sorti d'une manière plus importante, c'est vraiment de sentir que l'intervenant pourra réellement les aider à régler leurs problèmes.
Okay, okay.
Donc, ils veulent avoir de l'aide de la part des intervenants, de l'aide avec des outils concrets, des conseils, plutôt que simplement de l'écoute.
Okay.
Donc, autrement, la plupart des hommes ont besoin de savoir que ça va être juste plus que du placotage. Ils se rendent vers les services. Ils ont besoin vraiment de se dire, mon Dieu, je vais parler à quelqu'un de compétent, un expert qui va m'aider à solutionner mes difficultés. Okay. Donc, pour les hommes, les intervenants doivent être perçus comme des personnes crédibles.
Okay.
Et donc, pour nous, ce que ça nous fait dire, c'est qu'il faut beaucoup encore démystifier c'est quoi de l'intervention psychosociale auprès des hommes. Comment ça fonctionne? C'est quoi sa pertinence? C'est quoi son efficacité aussi? Donc, on a vraiment un travail à faire autour de ça.
Et justement, justement comme vers quels professionnels qui vont habituellement? Est-ce que, justement, ils sont peut-être pas portés à aller voir justement
le
psychologue?
Non, très peu. D'une part, les psychologues, c'est peu accessible aussi, mais néanmoins, il reste qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a les CLSC et tout ça, mais souvent, ils vont aller voir le médecin de famille. D'ailleurs, on a été un petit peu étonnés de constater que, justement, les hommes estimaient à 80 % la probabilité de consulter un intervenant psychosocial si un médecin le leur recommandait.
Ah, donc ils ont besoin d'un
pouvoir d'autorité. Oui, l'autorité du médecin est encore très, très, très importante dans nos sociétés. Puis, donc, l'autorité du médecin est plus élevée que si c'était la conjointe ou le conjoint qui suggérait à l'homme de consulter ou un ami, par exemple. Donc, on voit vraiment que... Mais là, la difficulté, c'est, OK, les médecins, donc, ont ce pouvoir d'influence-là, mais est-ce que les médecins savent vraiment où diriger les hommes en détresse?
C'est ça.
Donc, ce qu'on croit aussi, c'est qu'on a besoin, les hommes ont besoin d'être mieux informés sur ce qui existe, hein, sur les différentes ressources qui sont à leur disposition. Et on leur a demandé, justement, ça serait quoi le meilleur moyen pour vous informer des ressources qui existent?
Okay.
Et ce qu'ils nous ont dit, dans le fond, ça serait un site Internet spécialisé.
Okay.
Donc, ils voudraient vraiment avoir un lieu très précis où ils peuvent se rendre sur Internet pour en savoir plus sur les différentes ressources disponibles. D'ailleurs, pour eux, c'est vraiment un facteur facilitant de pouvoir se renseigner sur la ressource avant de faire une demande d'aide.
Okay,
donc, ils veulent savoir à qui ils s'adressent. C'est-tu crédible, ce monde-là? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir être aidés dans ce genre d'environnement-là? Donc, ça nous apparaît aussi comme prioritaire.
Donc, en fin de compte, on entend un peu par là aussi que, les hommes préfèrent peut-être le faire un peu discrètement, là, cette recherche-là. C'est par Internet, ça reste anonyme. Ils veulent savoir un petit peu à quoi s'attendre avant de faire la démarche, là.
Mm-hmm. Exactement. Ça, là, ça, vous l'avez dit, c'est très important. Ils veulent savoir à quoi s'attendre, comment mm-hmm. ça va fonctionner, c'est quoi les étapes, c'est qui la personne que je vais rencontrer. Donc, okay. tout ce qui permet aux hommes d'en savoir davantage, ça faciliterait, selon les résultats de sondage, leur demande d'aide.
Donc, en fin de compte, le site Internet qui serait à faire, c'est pas juste non plus de l'information, il faut aussi en même temps le processus qui est fait lors de l'accompagnement et tout ça. Ça serait vraiment
oui,
important.
Oui, c'est d'expliquer là. Un mm-hmm. peu en quoi ça consiste. Mm-hmm. Parce que pour une personne qui n'a jamais consulté une aide psychosociale, ça peut être très intimidant. On ne sait pas trop mm-hmm. ce qui va se passer. On a l'impression que les gens vont jouer dans notre tête ou avec nos émotions, puis qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, je pense que c'est très important d'offrir une information qui soit claire, qui soit détaillée aussi sur ce qui se passe et ce qui est disponible. L'autre élément très important qui est ressorti du sondage comme un facteur important pour faciliter la demande d'aide des hommes, c'est le fait que les services soient gratuits ou à faible coût.
OK. Mm-hmm.
Donc, vraiment, la barrière financière, c'est une barrière qui doit être absolument éliminée pour favoriser la demande d'aide des hommes.
Okay.
Et malheureusement, ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, à cause de différentes contraintes budgétaires, les organismes sont rendus qui demandent des frais pour leurs services et tout ça. Donc ça pourrait être vraiment un frein très important pour la demande d'aide des hommes.
Ben oui. Et je pense qu'il y avait des motifs aussi qui poussent les hommes. Là, tantôt, on parlait du médecin, mais il y a d'autres motifs aussi qui les pousseraient là, à faire une demande.
Oui, c'est ça. On leur a demandé, dans le fond, qu'est-ce qui vous inciderait à consulter, pour quel type de problématique.
Mm-hmm.
Dans le fond, ce qu'ils nous ont dit, c'est que s'ils se rendaient compte que leur discuté avait un impact sur leurs enfants, mm-hmm. la probabilité de consulter serait de 80 %. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose
beaucoup.
De majeur.
Mm-hmm.
Et s'ils en venaient à penser au suicide, ils estiment la probabilité à 75 % qu'ils le consulteraient à ce moment-là.
OK, OK. Les
autres motifs quand même importants, là, c'est est-ce que leur conjoint les menaçait de les laisser,
mm-hmm.
s'ils vivaient une séparation conjugale, par exemple, c'est aussi des de manière moins importante que si leur discuter avait un impact sur leurs enfants ou s'ils pensaient au suicide.
Okay,
donc, ça, c'est des motifs qu'ils jugeaient quand même important. Un autre élément qui a sorti du sondage que je trouve intéressant à rappeler, c'est que il y a près d'un homme sur deux qui considérait aidant qu'un proche les accompagne lors du premier rendez-vous.
OK. Ah
donc,
oui, c'est ça.
De pouvoir y aller avec un ami, une conjointe ou un conjoint, c'est considéré comme vraiment facilitant.
Okay.
Et ce qu'on sait, c'est que dans le réseau, c'est pas une pratique qui est tellement
privilégiée. Rare, ça. Mm-hmm.
C'est ça. Donc, je pense que juste offrir cette opportunité-là, sans qu'il y ait d'obligation d'aucune sorte, mais offrir simplement la possibilité à l'homme de venir accompagner s'il le préfère, mais ça pourrait, encore une fois, aider à la demande d'aide.
Parce qu'en plus, quand on parle de l'homme qui va voir son médecin de famille, il sera peut-être pas porté non plus à tout dire de ce qu'il vit, en tout cas particulièrement peut-être au niveau psychologique. Là. Des fois, il n'y a pas toujours la facilité d'en parler. Là.
Absolument. Souvent, il va se concentrer plus sur des plaintes somatiques, là, des différents mots de dos, de tête, de cœur, etc. Mais les dimensions plus psychologiques ou sociales, c'est plus difficile de se confier. Puis d'autant plus que, de toute façon, le médecin ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça non plus.
Non.
C'est ça ce qui est paradoxal. C'est qu'on est porté à aller voir un médecin, mais c'est pas pour des problématiques qui les concernent tant que ça. Le médecin, il est là pour diagnostiquer des pathologies puis, bon, propose un traitement souvent pharmacologique, là. Alors là, c'est pour ça que le médecin doit être capable vraiment de repérer les cas de détresse psychologique et de référer les hommes vers des ressources qui sont psychosociales.
Parce qu'en plus, souvent, des problèmes physiques peuvent cacher, justement, des problèmes psychologiques aussi à ce moment-là.
Oui, absolument. Mm-hmm. Exactement. Donc, c'est important quand même de bien regarder ça. Ce que je pourrais vous dire aussi par rapport au fait, bon, si l'homme décide de consulter, par exemple, il prend le téléphone, il appelle à la ressource et là, il tombe sur une boîte vocale.
Mm-hmm.
Ben, il y a un homme sur quatre qui laisserait tomber carrément en partant là.
C'est ça. Hein?
Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu problématique. Et si les hommes devaient être mis sur une liste d'attente, leur préférence serait vraiment que quelqu'un les rappelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles.
Okay, OK.
Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait les aider à se sentir moins comme un numéro puis sentir que, quand même, ils sont dans le.
Ils sont plus prêts à attendre.
Ils sont dans les attentes.
OK. Ils vont être plus prêts à attendre si au moins il y a un suivi.
Ouais.
Là. Okay,
OK. Exactement. C'est ça.
Oh, bon, effectivement. Donc c'est important d'avoir le service humain et d'avoir une réponse rapide, un retour. En tout cas, le premier retour est important. J'imagine le premier contact, c'est super important.
Oui, absolument, exactement. Donc, c'est important, donc, d'autant plus de bien faire connaître auprès de la population masculine les ressources qui sont disponibles 24/7. Okay. Parce qu'il en existe des ressources 24/7. C'est pas tous les organismes communautaires qui sont capables d'assurer vraiment une permanence là, 24/7, mm-hmm. mais il y a quand même le 1-866 appel, qui est la ligne de prévention du suicide, qui est 24/7. Il y a les centres de crise. Donc, dans chacune des régions du Québec, il y a un centre de crise qui est disponible donc pour répondre aux demandes 24/7. Et il y a bien sûr l'info santé, info sociale, le 811, là, qui peut être utile aussi. Donc ça, c'est important aussi de faire connaître ces ressources-là de la part des hommes pour justement éviter qui ne tombent sur des boîtes vocales là, lorsqu'ils sont en crise, par exemple.
Oui, effectivement. Et puis, je pense que vous avez aussi sondé au niveau de la personne, l'intervenant, le sexe de l'intervenant peut être. Est-ce qu'il est important ou non?
Oui, bien, ce qu'on a constaté, c'est pas vraiment.
Non, hein?
Mm-hmm. Donc, non, c'est pas quelque chose qui est majeur. La majorité des hommes n'avaient pas de préférence.
Okay.
Regardez, mm-hmm. quand on dit, si vous viviez des discussions importantes, vous sentiriez-vous plus à l'aise de discuter avec un homme ou une femme ou pas de préférence? Eh bien, 64% des hommes qui ont mentionné ne pas avoir de préférence, 22% une préférence pour une femme et seulement 14% de préférence pour un homme.
On s'imaginait des fois peut-être effectivement qu'ils préfèrent parler à un homme quand c'est des choses
c'est
plus...
Hein?
Ouais, ah ben, bon. C'est bon,
ouais,
c'est des choses intéressantes à connaître aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Et est-ce qu'il y avait aussi, je pense, le type d'intervention, ben, on avait parlé un petit peu, là, c'est pas c'est surtout d'avoir des conseils, contrairement à l'écoute en tant que telle.
C'est-à-dire que l'écoute, oui, ils veulent se sentir écoutés sans jugement d'une part, mais il ne faudrait pas que ça se limite à ça, juste de l'écoute. Mm-hmm. Ils ont besoin vraiment d'avoir une rétroaction des conseils, des outils concrets. S'ils vont consulter, c'est pour avoir des idées après qu'eux, ils n'ont pas nécessairement eu. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis moi, ça me fait dire que justement, parfois, là, ce qui est un peu dommage, c'est que dans les premières rencontres, on se concentre essentiellement à l'évaluation.
Okay.
C'est-à-dire que la personne va devoir répondre à toute une série de questions parce que l'intervenant doit se faire un peu une tête sur qui il est, c'est quoi ses besoins. Mais moi, je pense que rapidement, dès la première rencontre, il faut que l'homme ressorte avec quelques pistes, quelques outils concrets, quelques éléments là, de réponse à ses questions pour faire en sorte qu'il continue à être motivé dans la démarche.
Donc,
faire attention aux démarches d'évaluation qui durent plusieurs rencontres sans vraiment que l'homme est comme un... une valeur ajoutée à l'exercice.
Là. Un peu comme, en tout cas, l'image qu'on a souvent, les hommes ont besoin d'être dans l'action, donc ils ont besoin comme qu'il y ait quelque chose qui avance, quelque chose qui est en route là, déjà. Là.
Exactement. Mais, d'autant plus que souvent, ils attendent très longtemps avant de consulter.
Oui.
Donc, lorsqu'ils sont rendus au service, la situation est particulièrement problématique et donc requiert une aide quasiment immédiate. Là.
C'est ça. Et puis, justement, suite à ce sondage-là, est-ce que y a des choses là, qui pensent être mises en place? Justement, vous parliez d'un site Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait peut-être se faire dans les prochains mois?
Bien, j'imagine, là, dans le fond, on a un plan d'action maintenant ministériel en santé et bien-être des hommes qui prévoit vraiment des investissements pour améliorer l'accessibilité aux services puis mieux répondre aux besoins des hommes. Donc, ils vont utiliser les résultats de ce sondage-là pour, faire des décisions sur où ils vont investir les sous. Donc, j'ai espoir. Puis, on a aussi au Québec un nouveau pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes. Donc, c'est tout un recrutement de chercheurs qui est sous le leadership de Gilles Tremblay de l'Université Laval. Donc, ça, c'est quand même très intéressant aussi. Donc, je pense que les choses bougent beaucoup au cours des dernières années. Ça, c'est grâce justement à plusieurs chercheurs, plusieurs intervenants importants dans le milieu qui ont poussé très fort pour qu'on ait un plan d'action en santé et bien-être des hommes depuis des années. Puis là, ben, on récolte un peu les fruits de tout ce travail-là là, que les pionniers ont fait depuis des décennies.
C'est ça. Et c'est aussi prendre conscience que, bon, le travail qui est fait sur les hommes, ça a un impact, bien sûr, sur leur entourage, autant leurs conjoints, conjointes, leurs enfants et même leurs collègues de travail et tout leur
entourage.
Exactement,
exactement. C'est ça, toute la société s'en porte mieux là, si les hommes sont en santé puis ils sont heureux aussi.
Parfait. Madame Houle, à quel endroit, je pense qu'on peut d'ailleurs les consulter, ces résultats de sondage-là, à quel endroit qu'on pourrait aller les voir?
C'est sur le site du regroupement en santé et bien-être des hommes du Québec, le regroupement provincial.
OK, donc
vous pouvez retrouver le webinaire.
Parfait. De toute façon, ici à l'émission, on mettra le lien pour les gens qui voudront aller le voir. Alors, merci beaucoup. Puis, en tout cas, si jamais d'autres sondages ou d'autres recherches là, dans ce sens-là, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous là, pour nous partager ça.
Fantastique. Merci. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.